Je suis née israélite, de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse, comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Alors voilà ce que déclare l'apôtre Paul au troisième chapitre de sa lettre à la communauté chrétienne de Philippe. Il y témoigne, vous l'avez entendu, d'un changement radical de point de vue et savoir avec le Christ, se remettre en question, briser les certitudes anciennes et changer de cap. Savoir avec lui retrouver le chemin de la vie. Tel va être aussi le fil rouge de ce culte. Qu'il soit signe et témoignage de l'amour du Christ et du salut qu'il nous donne. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Soyez tous les bienvenus dans ce temple aujourd'hui, comme chaque fois que vous y pénétrerez, et quelles que soient vos origines et vos convictions. Me voici, Seigneur Sauveur. Pour la louange. Notre joie est de te louer, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, car en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier, tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine. Et voici l'amour, de la peur, et voici la joie, de la nuit, et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses, et c'est toi qui les as comblés. Nos puissances sont allées à toi avec leurs superbes, et c'est toi qu'ils ont adoré. À leur suite, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et nous chantons donc le premier cantique, le 33-24, qui se trouve à la page 420. Nous en chantons les strophes 1, 3 et 4. Nous prions. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Pardonne-nous de ne pas vivre de ta parole et selon ta parole. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie, notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de Dieu. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Pardonnés et libérés, nous pouvons suivre la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Vous asseoir. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rend attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour la fermeté de notre espérance. Amen. Alors, j'invite Nicolas qui va nous faire les lectures.
La première lecture, Ésaïe, chapitre 43, les versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées, lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et corps d'assaut tout ensemble, sitôt couchés pour ne plus se relever, étouffés comme une mèche et éteints. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas ? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin, dans la lande des sentiers. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande, pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, les versets 1 à 11. Et Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils. » Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et, s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et dit : Femme, Où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus.
Dans ce texte de l'évangile de Jean, bien connu sous le nom de la femme adultère, c'est la question de la loi qui est de nouveau mise en avant. « Et toi ?» demandent les pharisiens à Jésus. « Qu'en dis-tu ? Faut-il appliquer la loi ?» Et comme les pharisiens vis-à-vis de celle de Moïse, nous considérons en général la loi, notre loi, celle de la République, comme une sorte d'absolu, quelque chose qu'on ne peut enfreindre ni transgresser. quelque chose que l'on doit connaître aussi, puisque selon l'expression usuelle, nul n'est censé ignorer la loi. Et sans doute est-ce bien qu'il en soit ainsi, puisque la loi, au départ, est faite pour donner un cadre de vie, pour qu'une société vive le plus harmonieusement possible, pour qu'il y ait une justice égale pour tous. Qu'arriverait-il en effet si nous n'avions pas de cadre? Si chacun faisait ce qu'il lui plaît? Sur la route, par exemple, rouler sans contrainte de limitation, quand ça nous chante, griller le feu rouge ou le stop, qui ne sont bons que pour les autres. Qu'arriverait-il si chacun choisissait de s'écarter de la justice établie pour appliquer sa propre justice? Où serait l'égalité de traitement des justiciables garantie par la loi? On parle aussi beaucoup ces derniers temps de, parce qu'il est malmené, de l'importance de l'état de droit. Cet état, fondement de la démocratie, en ce qu'il sépare les pouvoirs judiciaires et politiques. Il s'oppose ainsi à l'arbitraire des puissants qui se croient au-dessus des lois. Et l'actualité récente, malheureusement, ne manque pas de nous donner des exemples de ces conduites arbitraires. Donc chacun est donc d'accord, je pense, ici, pour reconnaître qu'il est bon d'avoir des lois pour régir la conduite des personnes comme des États, qu'il est bon que ces lois soient aussi respectées. Mais encore faut-il quelques conditions et précautions. Encore faut-il, par exemple, que la loi ne soit pas rigoureuse à l'excès. Lapider, c'est-à-dire tuer à coups de pierre, une femme, ou un homme d'ailleurs, nous semble aujourd'hui inacceptable, disproportionné, barbare et de plus inefficace. Victor Hugo, dans son ouvrage « Le dernier jour d'un condamné à mort », Robert Badinter, à la tribune de l'Assemblée nationale, ont dénoncé la cruauté et l'inhumanité de la peine de mort. Mais ils ont aussi montré que l'existence de cette peine ne dissuadait pas certains individus de perpétrer les crimes les plus affreux. Et surtout, même si, comme on l'a déjà dit, la loi est un cadre qui doit être respecté pour le bien vivre ensemble, il ne faut pas non plus l'ériger en absolu, en faire une idole et l'appliquer sans nuance. Une chose qui peut paraître un peu choquante dans notre texte est le fait que ce récit de la femme adultère ne comporte aucun détail des circonstances. Où, quand, avec qui cet adultère a-t-il été commis? Il faut être deux pour ce forfait. Alors, où est l'homme avec lequel il s'est commis et qui n'est pas lui aussi amené devant Jésus? Il ne s'agit pas d'innocenter cette femme. D'ailleurs, Jésus lui-même ne le fait pas. Il s'agit de considérer la femme, la personne, et pas seulement sa faute. Les pharisiens et les scribes, eux, sont bien déterminés, de toute façon, à lapider la femme. Pour eux, adultère égale condamnation. Pour eux, adultère égale lapidation. C'est mathématique. La loi s'applique sans procès, sans prendre en considération les individus. La femme est niée en tant que personne. Ce qui prévaut, c'est la prise en compte seule et absolue de la loi. C'est ce qu'on appelle le légalisme. La loi n'est alors plus simplement un moyen d'organiser et d'harmoniser la société, elle devient un but en soi. Alors, face à cette loi, Jésus en offre une autre. Ou plutôt, il amène à penser les choses autrement. En Exode, au chapitre 31, verset 18, lorsque Moïse reçoit la loi de Dieu au mont Sinaï, il est dit que Moïse a pris les tables écrites par le doigt même de Dieu. Jésus, lui aussi, va écrire, non pas sur la pierre, mais sur le sol. Le geste est donc semblable, et Jésus, lui aussi, réfléchit à la loi. Il ne récuse pas la loi de Moïse. Il dira d'ailleurs, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Mais il ne fait pas de son application un impératif absolu. Il n'interdit pas qu'on jette la première pierre, mais il y ajoute une condition. On peut le faire, on peut jeter cette pierre, sous réserve d'être soi-même sans péché. Or, cette condition va venir casser le mécanisme d'application stricte de la loi. Cette condition oblige chacun des présents à cet événement, et chacun de nous oblige à s'arrêter, à revenir sur soi, à se confronter à sa propre conscience. Et cette loi casse donc ainsi une fatalité. Oui, cette condition, ce retour sur soi-même, va montrer qu'il n'est pas fatal que la femme soit lapidée, qu'il n'est pas fatal non plus que les pharisiens soient ses bourreaux. Cette condition, cet amendement, pourrait-on dire, est donc profondément libératrice. Pas seulement parce que la femme adultère va échapper à une exécution sommaire, mais aussi pour les pharisiens. Pour les pharisiens, pour les scribes, qui ne sont plus de simples outils au service d'une loi figée, mais qui, délivrés de l'obligation d'être ses bourreaux, ou d'être les bourreaux, deviennent libres de réfléchir et responsables de leurs actes. Et par cette condition, en dessinant sur le sol, Jésus ne donne pas de réponse directe et définitive à la question des pharisiens. Mais il ébauche pour eux un chemin. Il les appelle à l'autonomie, à la responsabilité personnelle du choix. Et par là même, la parole de Jésus leur rend leur dignité d'homme et leur humanité. Et semblablement pour la femme adultère, Jésus ne l'excuse pas. Il ne s'agit pas ici de minimiser la faute, il ne s'agit pas d'un pardon à bon compte. Cela va beaucoup plus loin. Car ce que Jésus dit aux pharisiens, en affirmant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ce que Jésus dit ainsi, c'est que la femme adultère, c'est eux-mêmes. C'est que cette femme est comme eux, pécheresse comme eux, et qu'elle n'est donc pas seulement un cas, un article de la loi. Et donc les pharisiens vont s'avouer à eux-mêmes leur péché, et la reconnaissance par eux-mêmes de leur propre faute vient briser le pouvoir qu'ils s'octroyaient sur les coupables et change le regard qu'il portait sur l'accusé. La première étape de notre récit se clôt donc sur cette double libération des pharisiens et de la femme. C'est aussi, bien sûr, pour nous une invitation à ne pas voir la paille dans l'œil de l'autre quand nous ne voyons pas la poutre dans le nôtre. Mais c'est une invitation, au contraire, à considérer ce voisin, cet autre, comme notre semblable et notre prochain. Cette première étape se clôt par le départ des accusateurs, qui se retirent tous, un à un, laissant la femme seule avec Jésus. Alors, est-ce que ça s'arrête là ? On peut imaginer que la femme est évidemment soulagée de les voir partir, soulagée de ne plus avoir autour d'elle ce cercle inquisiteur, ses regards braqués sur elle. Mais sans doute est-elle aussi un peu étonnée, voire désorientée, par ce retournement inattendu de situation. Elle n'ose pas bouger, elle n'ose pas y croire. Une première libération a été l'absence de châtiment, mais cela ne suffit pas. Elle est encore arrêtée, elle est encore paralysée par la peur, elle est encore tournée vers ce passé qui a arrêté le cours de sa vie. Et Jésus va la remettre en marche. Alors on rejoint ici le texte d'Ésaïe qui invite à ne pas plus se tourner vers le passé, mais au contraire à trouver un nouveau chemin de vie. Et Jésus lui dit « Personne ne te condamne, moi non plus, va et ne pêche plus. » Et là, il a bien sûr la deuxième étape, l'évangile agi et prêché par Jésus-Christ n'est pas un enfermement dans une loi appliquée de manière aveugle, il n'est pas enfermement dans une faute passée et dans la culpabilité de cette faute. Il est ancré dans l'amour, dans un pardon qui relève et qui remet en marche. L'évangile que nous annonce le Christ est ici, bien sûr, et pleinement celui de la grâce, celui d'une libération totale et inconditionnelle. Oui, cette bonne nouvelle nous appelle à aller de l'avant, à avancer avec confiance. Alors, je sais bien qu'avec de telles affirmations, on peut nous traiter de naïfs dans un monde où souvent, chaque jour, pratiquement, de multiples manières, certains s'emploient à distiller la peur, pour diviser, pour asservir et entraver l'action libre et responsable. Mais nous pouvons refuser cet asservissement. Ne nous laissons pas gagner par l'inquiétude. Gardons devant nous l'image de Jésus se baissant par deux fois pour écrire sur le sol, pour donner une nouvelle vie, pour dessiner, pour construire, pour laisser l'Esprit nous emplir et guider par sa parole. Et je terminerai avec un autre verset de la lettre aux Philippiens, qu'on a entendu et qui suit celui que j'ai lu au début de ce culte, et dans lequel Paul affirme « Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ, c'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. » Amen.
Thank you.
Alors, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 31-20, page 330. Seigneur, que tous s'unissent. Je vous invite à rester debout. On va lire ensemble la confession de foi numéro 4 qui se trouve à la fin des recueils Alléluia. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrant la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous le combattions le mal et nous construisons une juste paix, l'espérance de son royaume. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Celui qui croit en toi.
Par notre offrande, nous affirmons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Pour le sens qu'il donne à notre vie, pour la libération qu'il met devant nos pas, nous lui disons merci. Et nous voulons soutenir par notre offrande le témoignage de son Église. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Alors, quelques annonces.
Bonjour. Pardon. Bonjour à chacun, merci de votre présence. Merci à Nicole pour cette prédication, ce culte aujourd'hui. Et notre pasteur n'est pas là aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir la diversité des prédicateurs qui sont là pour soutenir notre Église. Merci à Nicolas et Yvon Serge qui vous ont accueillis ce matin et qui ont préparé la Sainte-Cène. Merci aussi à Andrea pour la musique et à Daniel pour les fleurs. Voilà, cette semaine, quelques rendez-vous. Mardi, il y a la prière à 7h le matin pour les courageux. La chorale à 19h15. Alors, la chorale, donc, c'est la dernière répétition avant le concert de samedi. Samedi, et il y a un concert ici au Temple à 20h. C'est un concert à trois voix, à trois chorales. Donc il y a une chorale du Chablais, la chorale éphémère et la chorale Capernaum. Voilà. Samedi à 20h, oui. Mercredi, comme chaque semaine, nous vous proposons une prière à 18h. Et vendredi, il y a la soirée Bible en partage, la soirée œcuménique qui permet de partager le texte biblique du dimanche d'après d'une manière œcuménique avec les autres églises d'Annecy et avec la méthode de la Lectio Divina. Voilà. Donc d'habitude c'est le troisième vendredi, là ça a été décalé au deuxième, tout simplement parce que le vendredi d'après c'est le vendredi saint. Donc c'est à 18h30, ici, dans la petite salle à l'entrée. Dimanche, c'est le dimanche des familles, c'est aussi la fête des rameaux. Et il y a aussi un week-end caté du côté de Tamiers, en commun avec les scouts. Et puis, enfin, vous verrez dans le hall, sur la petite table à la sortie, il y a trois affiches pour des concerts. Donc, ce soir à Verrier, et puis la semaine prochaine à Genève ou à Verrier. Voilà. N'hésitez pas à consulter. Et enfin, un dernier appel, il y a toujours le carême protestant sur France Culture, tous les dimanches de carême à 16h ou bien en podcast. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oh, merci Thierry, il y a l'appel du mois de la 4 qui est arrivé et j'ai oublié de le prendre avec moi, donc si vous pouvez le récupérer auprès de Thierry ou sur le présentoir. Voilà, merci.
Bonjour à tous, je suis le fils de ma mère. Bientôt, ma mère, ça fera un an qu'elle est morte. Maman, merci de ce que tu as fait pour moi. L'éternel hommage rendu à Claude Pernol. Bonjour maman, c'est Jean-Michel Pernol, ton fils, ton bébé. Moi, je vais avoir 45 ans le vendredi 17 octobre 2025. Je t'aime, maman. Tu me manques énormément parce que tu aimes ton fils, ton bébé. Moi, j'ai repris mon travail le jour de ton anniversaire. Toi, tu aurais 84 ans le 8 octobre. Après, tu aurais 85 ans. Toi, maman, tu es née à Annecy le 8 octobre 1940. Je t'aime, maman. Je pense à toi tous les jours. Et moi aussi. Moi, ton fils. Aujourd'hui, j'ai très bien travaillé. Quand tu étais à la MTPH, toi, tu voulais que je reste en milieu ordinaire, avec autonomie. Que c'est grâce à toi, maman, et grâce à moi aussi. Parce que tu voulais que je reste toujours autonome. Merci, maman. Ton fils, Jean-Michel Pernol. Maman, je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Merci, maman.
Nous allons partager le repas du Seigneur et nous te louons. Il est bon, et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre,
et la vie éternelle. Pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et dans ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit-Saint afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de célébrer la grâce et la fidélité du Seigneur.
Le soir venu, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. »
Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole.
Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, à nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs.
Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et espère en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend.
Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Que celles et ceux qui reconnaissent le Jésus-Christ comme notre Seigneur et qui désirent partager son repas forment un cercle autour de cette table. Je vous invite à former ce cercle. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
pour la simplicité de ce pain et de ce vin. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. Béni sois-tu.
À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous en préparer ta venue.
Et nous recevons l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu. Allez maintenant annoncer l'Évangile en paroles et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. On chante le dernier spontané, peut-être pas vos cantiques. Il y allait quand même.